Bonjour Cécile Coulon.
Bonjour.
Inutile d'aller plus loin que la toute première phrase du livre, il avait 7 ans et son visage était pourri. Puis, sur la même page, il y a les mots trou sanguinolent, ravagé, strie, bubon, ravine, aft. On est dans le champ lexical de la monstruosité. Qu'est-ce que c'est la monstruosité pour vous ?
Oh là ! La monstruosité, pour moi, c'est d'abord ce qu'on voit et ce qu'on n'est pas habitué à voir. Je pense qu'il y a d'abord beaucoup de surprises dans la monstruosité et j'ai tendance à penser, peut-être que dans un an, je ne vous dirai pas du tout ça, mais là, j'ai tendance à penser que la monstruosité, comme la beauté, est dans l'œil de la personne qui regarde.
C'est-à-dire qu'à partir du moment où on s'y habitue, c'est plus monstrueux ?
Je pense qu'à partir du moment où on s'y habitue, où on comprend, où on approche, en fait, non seulement ce n'est plus si monstrueux, parce que c'est ce à quoi on s'est habitué, comme vous le dites, parce que c'est ce qu'on commence à aimer aussi. On peut mettre ça en parallèle avec cette idée de gens, on les voit dans la rue et on se dit « mais jamais de la vie je ne sortirai avec cette personne, c'est impossible ». Et en fait, quand on commence à apprendre à connaître certaines personnes, on les trouve beaux ou belles. Parce qu'on apprend à les connaître. Ça, c'est quand même incroyable. Et ne me dites pas que ça ne vous est jamais arrivé.
Si, complètement, ça fait écho.
Et je pense que c'est le même sentiment avec tout d'un coup d'être mis face à quelqu'un qui n'a pas un visage, un corps, une façon de parler, une façon de voir, de bouger auquel on est habitué. Et tout d'un coup, à force d'apprentissage, ça devient notre normalité. La monstruosité, hein, au départ, hein, c'est vraiment ce qu'il faut montrer parce que c'est différent. Le monstre de foire, quoi. Mais en fait, ce monstre de foire, s'il y en a 100, 200 ou des milliers, c'est plus du tout un monstre.
Alors l'enfant, au cœur du livre, vit dans un village qui n'existe pas, une époque qui n'est pas précisée. Il est défiguré après avoir été pris d'une fièvre étrange. On est donc dans un conte. Il manque juste le « il était une fois » au début. Qu'est-ce que vous aimez dans les contes ?
Alors, beaucoup de choses. Mais ce que j'aime en particulier, c'est d'une part la capacité qu'ils ont à vivre très longtemps, dans le temps et dans les âges des personnes qui les lisent. C'est-à-dire que qu'on ait 5 ans ou 95 ans, le conte est toujours là et fonctionne toujours aussi bien. Et c'est aussi, je pense, une forme culturelle qui nous éduque, parce que c'est une des premières choses qu'on nous raconte. Je ne veux pas dire de bêtises, mais il me semble qu'une fois qu'on a appris notre prénom, qu'on a appris des mots de base, les premières histoires qui nous sont racontées et qui nous réunissent culturellement, ce sont les contes. Et pourtant, on ne considère pas que les contes sont des classiques. On ne met pas le conte et Zola au même endroit. C'est assez intéressant, ça aussi. Je crois que dans le conte, il y a quelque chose de tellement essentiel, de tellement fondamental, qui va chercher si loin dans notre intimité personnelle et culturelle, qui est quelque chose de l'ordre de l'éternité.
Alors, comme souvent dans les contes, il y a les bonnes fées, le prêtre et l'ancienne institutrice aveugle qui recueillent l'enfant et l'élève, et puis il y a les méchants, les villageois, qui pourraient s'en prendre à lui parce qu'il est trop monstrueux. Et puis il survient un événement, l'arrivée dans ce village d'un autre enfant qu'on cache parce que lui, il est trop beau. La morale de ce conte, parce que dans les contes, il y a une morale, c'est que sortir de la norme d'une façon ou d'une autre, c'est ça le problème ?
Déborder, c'est un problème. Déborder intellectuellement, déborder physiquement, dans ses actes, dans son langage aussi, c'est un problème. Mais c'est un problème parce que, vous savez, il y a cette phrase qu'on entend beaucoup qui dit « il faut tout un village pour élever un enfant ». Ce qui est vrai. Mais qu'est-ce qui se passe quand l'enfant ne correspond pas aux normes que le village a imposées ? Qu'est-ce qui se passe quand l'enfant déborde, quelle que soit la manière dont il déborde ? Et dans ce cas-là, est-ce qu'il faut aussi tout un village pour tuer un monstre ? C'est-à-dire, si on retourne cette phrase, si on dit, mais évidemment que ça arrive qu'on ne corresponde pas à ce qui était attendu, à ce qu'on attendait de nous, et que ce soit, encore une fois, physiquement, familialement, amoureusement, intellectuellement, ça marche vraiment dans tous les domaines. Qu'en est-il de nous à partir du moment où tout le monde a compris qu'on n'allait pas être au bon endroit ? Et c'est ce qui m'intéressait dans le livre. Mais je n'ai pas la réponse, hein, parce que je pense qu'elle est très différente en fonction de comment la personne qui déborde ressent ce débordement. Dans le texte, ce garçon qui est considéré comme un monstre, il voit son visage une seule fois. Et c'est terrible pour lui aussi, c'est-à-dire qu'en le regardant, il est lui aussi assez dégoûté par son visage. Et le prêtre va lui dire « vous ne reverrez plus jamais votre visage parce que c'est trop difficile pour vous de savoir que vous avez cette figure-là ». Et j'avais évidemment envie de dire « attention, on n'est pas sur un être innocent, on n'est pas sur un être qui serait l'incarnation de la bienveillance, de la gentillesse, de la victime absolue, puisque lui-même, il n'y arrive pas à regarder son visage ».
Alors comme dans les contes aussi, souvent il y a une forêt magique en quelque sorte, celle où l'enfant a le droit de se promener la nuit uniquement pour ne croiser personne. C'est un espace de sécurité et d'émerveillement pour lui et tout est renversé finalement. Ici la nuit devient l'endroit rassurant. Vous avez aussi voulu jouer à inverser les codes.
Oui, parce que La nuit, c'est l'endroit rassurant, c'est l'endroit où il va grandir, c'est un lieu d'apprentissage, c'est un lieu de métamorphose, c'est le lieu du passage de l'adolescence à l'âge adulte et de l'enfance à l'adolescence. Mais surtout, c'est le seul endroit pour ce garçon où il peut grandir, être auprès d'autres êtres vivants, mais sans être regardé et sans être vu. Parce que les animaux ne le voient pas, ils le sentent, mais ils ne le voient pas. Que les autres êtres humains qu'il va croiser ne vont pas le voir non plus, puisque tout le monde est dans la pénombre. Et ça, c'était très important pour moi, en tant que personne qui écrit, de dire comment on raconte, comment on décrit ce qui n'est pas visible. Et qu'est-ce que ça signifie ? Et c'est aussi une question que je pose aux gens qui lisent le texte, c'est seriez-vous aujourd'hui des personnes différentes si vous aviez grandi hors du regard des autres ? Si vous n'étiez pas soumis et soumise au regard des autres, est-ce que votre vie serait différente ? Et je pense très sincèrement que la réponse, c'est souvent oui.
Alors, il y a une rencontre au cœur de cette forêt magique et de cette nuit. Et puisqu'ils ne se voient pas, eh bien, ils se parlent, l'enfant et cette personne qu'ils rencontrent. Et donc, tout se joue dans cette rencontre et dans les mots échangés. Est-ce que vous croyez encore que le dialogue et les mots peuvent changer le monde d'une certaine façon ?
Ah, je crois que oui. Et je ne pense pas que ce soit d'un optimisme bêta. Je crois sincèrement que les mots, le langage, et je ne dis pas la communication, hein. Je dis bien la discussion, parfois le débat, moi je trouve ça bien, la nuance qu'il peut y avoir aussi dans, que les mots apportent, peuvent changer le monde ou en tout cas mettre le pied dans la porte, ce qui est plutôt un bon début.
Oui, en l'occurrence. Ce village imaginaire du fond du puits, vous l'aviez déjà mis en scène dans votre précédent roman, c'est une sorte de petit théâtre imaginaire où vous déployez vos histoires. Il représente quoi pour vous cet endroit ?
Pour moi cet endroit, c'est un peu la somme de tous les lieux de tous mes romans précédents. C'est-à-dire que c'est mon 10e roman, et dans les 9 romans précédents, j'ai toujours installé mes personnages dans des villages, dans des hameaux. Autour, le paysage changeait un peu de livre en livre, mais il était souvent question de familles qui se ressemblaient, de maisons qui se ressemblaient aussi. Les seuls petits détails qui pouvaient changer, c'était vraiment, oui, la question des saisons, la question de la couleur de la pierre, ou du dénivelé, quoi. Mais je me suis dit, avec ce fond du puits, que peut-être il fallait assumer que c'était là l'endroit rêvé pour moi pour écrire, quoi, pour installer mes personnages, pour installer mon histoire, pour installer mon suspense, et que je trouvais ça, pour le coup, un peu idiot d'écrire un roman qui se passe dans un autre endroit, mais en vérité, en réalité, cet endroit, ça aurait été le fond du puits avec un autre nom, et j'aurais changé 4 détails sur le paysage, quoi, et ça ne servait à rien. Je me suis vraiment dit sur le roman précédent, quand j'ai terminé La langue des choses cachées, que j'avais pas envie de partir de cet endroit.
Et donc, vous n'avez toujours pas envie d'en partir ?
Je suis très bien.
Il n'est pas épuisé.
Il n'est pas du tout épuisé.
Bon, donc on le reverra, ce fond du puits.
Je l'espère.
Il se passe plein de choses là-bas, visiblement. Cécile Coulon, vous signez Le visage de la nuit chez l'Iconoclaste, un conte féroce sur la norme, sur la beauté, sur ce que l'on est capable de voir et d'affronter. C'est une petite pépite de cette rentrée littéraire. Merci beaucoup.
Merci.